Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de l'affaire Khalifa Sall au Sénégal. Rappelez-vous, en mars dernier, le député maire de Dakar était condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des deniers publics. Ses avocats n'ont eu de cesse de dénoncer un procès politique, d'autant que Khalifa Sall est présenté tout de même comme un potentiel concurrent de Macky Sall à l'élection de l'année prochaine, Macky Sall étant le président sénégalais. En tout cas, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé vendredi dernier que les droits du député de Dakar n'ont pas été respectés. Il n'a pas eu accès à un avocat durant l'enquête préliminaire. Sa présomption d'innocence a été violée, tout comme son immunité parlementaire. Bref, les juges ont conclu que ce procès n'a pas été équitable. Alors, êtes-vous surpris par ce rebondissement? Que vous inspire la décision de la Cour de la CEDEAO? Et surtout, quelles répercussions, quelles conséquences pour le procès en appel qui doit commencer lundi prochain? On en parle, c'est le sujet qui fait discussion à Dakar, au Sénégal. Donc vous êtes les bienvenus, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On va s'intéresser à la Coupe du Monde de football et surtout au Sénégal qui n'a pas digéré son élimination. Glorious Banza est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio France Inter.
Alors, on va tendre l'oreille. Vous nous appelez de Kolwezi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Il pleut à verse en ce moment, donc autant dire que vous ne pouvez pas sortir, donc vous êtes à l'abri. On vous écoute.
Oui, le Sénégal a porté plainte contre le Japon à la FIFA parce que le Japon n'avait pas joué son match contre la Pologne, parce qu'il savait que eux tous étaient déjà qualifiés, ils jouaient juste à une passe à 10. Maintenant, ma question est de savoir si cette plainte peut donner au Sénégal une réponse favorable.
Alors, Alejandro Valente, le chef du service des sports d'RFI et de retour de Russie, est à mes côtés. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
Alors, on rappelle tout de même que la Fédération sénégalaise de football a fait parvenir un courrier à la FIFA. C'est plus un courrier qu'une plainte pour dénoncer quand même le comportement du Japon lors du match vendredi dernier qu'il opposait à la Pologne. C'était dans le cadre de la dernière journée des phases de groupe. Que s'est-il passé? Que reproche concrètement le Sénégal?
Bah disons que le Sénégal reproche au Japon d'avoir fait tourner le ballon pendant les dernières minutes de son match contre la Pologne, sachant que si les scores, aussi bien du Japon que celui du Sénégal, qui jouait en même temps contre la Colombie, en restaient là, le Japon se qualifierait devant le Sénégal pour les huitièmes de finale au bénéfice des moindres nombres de cartons jaunes, puisque les Japonais n'en avaient récolté que 4 contre 6 pour les Sénégalais. Et c'est un critère qui permet de départager deux équipes que rien d'autre, ni les buts marqués, ni les différences de buts ne peuvent départager.
Donc les Japonais ont levé le pied dans le dernier quart d'heure de ce match pour essayer de conserver ce score et donc évidemment espérer une qualification définitive. Le Sénégal parle de manipulation de ce résultat en conservant justement le score. Est-ce que c'est exagéré?
Ah oui, pour moi c'est exagéré parce que c'est vrai qu'on peut toujours être un peu choqué de dire le Japon s'est qualifié au bénéfice du fair play alors que cette attitude n'est pas vraiment très fair play. Mais d'un autre côté, il faut savoir que les deux matchs n'étaient pas terminés. C'est-à-dire que si les Sénégal marquaient, la donne changeait complètement. Oui. Si la Pologne marquait un but contre le Japon, ça a changé la donne. Donc les Japonais n'étaient assurés de rien du tout.
C'est vrai que le sélectionneur Nishino Akira a pris un risque conséquent tout de même en demandant à ses joueurs de lever le pied les dernières minutes.
Absolument, mais il n'y a pas que. Parce que en fait, la Pologne en face était déjà éliminée. Elle avait déjà fait un gros effort en faveur du Sénégal en marquant un but qui donnait la victoire à la Pologne et qui pouvait permettre au Sénégal de se qualifier en faisant match nul. Donc, mais après, la Pologne n'avait aucun intérêt majeur à essayer de marquer un deuxième but. Donc en fait, les deux équipes s'est contentées de ce résultat en espérant que ça n'évolue pas vraiment du côté du match Colombie-Sénégal.
Concrètement, après cette lettre adressée à la FIFA, à quoi peut s'attendre le Sénégal ?
Bah rien du tout. Je pense que c'est une lettre qui témoigne plutôt d'un aspect de mauvais perdant peut-être du côté du Sénégal. C'est un peu dommage parce qu'il n'obtiendra rien du tout. Et finalement, c'est vrai que cette histoire a fait beaucoup parler. C'est la première fois qu'une équipe s'est qualifiée selon ce critère et peut-être la dernière. Vous savez, ce critère n'est pas très satisfaisant. La FIFA en est consciente et il sera sans doute maintenu pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, mais après, il sera remplacé par un autre critère à partir de 2026, ce sera le classement FIFA.
D'accord.
C'est-à-dire que deux équipes qui se trouveraient dans cette même situation seraient départagées par le meilleur classé au classement de la FIFA.
Ouais, en tout cas, le Japon a été éliminé hier soir par la Belgique, comme en 2002, en 2010, les samouraïs bleus.
Ils ont fait un très beau match.
Très beau match,
et pas du tout attentiste. Là, ils menaient 2-0, ils ont continué à chercher à marquer un but de plus, donc ça les honore et ça diminue encore un peu l'intérêt de la démarche sénégalaise.
À suivre aujourd'hui sur l'antenne Afrique de RFI, Colombie-Angleterre, prise d'antenne à 17h40 temps universel avec Christophe Jousset, Eric Mamrut et Farid Achache. Coup d'envoi du match à 18h, TU. Et j'en profite, Alejandro, pour signaler aux auditeurs que demain, on jouera les prolongations. On reviendra sur les huitièmes de finale et vous pourrez, vous tous, évidemment, commenter les affiches du dernier carré. Vous souhaitiez rajouter quelque chose ?
Bah, simplement pour dire qu'il n'y a pas de radio foot dans l'après-midi aujourd'hui à cause des matchs qui s'y déroulent. Donc, il y aura un seul rendez-vous, c'est à 21h10, temps universel.
Autour d'Annie Gasnier. Merci Alejandro Valente et bonne journée à Glorious Bonza qui nous appelait de Kolwezi en République démocratique du Congo dans la province du Katanga. 10h17 à Paris, vos questions. Bonjour Delvi.
Bonjour Juan, bonjour à tous et un grand bonjour à la formidable équipe d'appel sous l'actualité.
Merci de vos encouragements. Vous souhaitez que l'on revienne sur la décision de la Cour suprême américaine de valider le décret migratoire très controversé de Donald Trump.
Le décret anti-migratoire de Donald Trump interdisant l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans a été validé par la Cour suprême américaine. Comment cette Cour a-t-elle en gros dépassé l'argument selon lequel ce décret est discriminatoire ?
Oui, c'est vrai que de nombreuses associations n'ont cessé de dénoncer ce décret, le qualifiant de décret anti-musulman. Bonjour Françoise Coste.
Bonjour.
Maître de conférence à l'Université Toulouse, Jean Jaurès, spécialiste de la politique intérieure des États-Unis. C'est incontestablement une belle victoire pour Donald Trump. Comment expliquer cette décision de la Cour suprême américaine ?
Alors, sur officiellement, la ligne officielle, c'est que cette version du décret migratoire n'est pas discriminatoire, puisque dans les deux premières versions, ou au moins la première, effectivement, la liste des pays concernés par l'entrée sur le territoire des États-Unis, c'était uniquement des pays majoritairement musulmans. Mmh. Et là, dans cette version-là, Trump, enfin, son administration, a été un peu plus maligne et a mis dans la liste des pays non musulmans du type Venezuela ou Corée du Nord.
Alors pour le Venezuela, ce sont certains officiels du Venezuela.
Voilà, oui.
La Corée du Nord, ce sont effectivement tous les ressortissants, enfin tous les habitants.
Oui. Ce qui est un peu ironique, vu que ça vous montre bien que le décret a été rédigé avant la réconciliation de façade entre les États-Unis et la Corée du Nord. Mais bon, la Cour suprême, elle sait. La réalité, c'est que la Cour suprême est conservatrice et voulait donner cette victoire à Trump et elle aurait de toute façon accepter le décret, on peut dire ça.
Oui.
Et elle a trouvé comme justification ça. Alors que les opposants au décret ont bien montré que pendant la campagne et au début de sa présidence, Trump avait toujours dans ses propos lié le décret à son refus de voir des immigrés musulmans, des réfugiés musulmans ou des immigrés musulmans rentrer aux États-Unis. Donc, c'est les avocats de la défense, si vous voulez, ont essayé d'utiliser les paroles de Trump et la Cour suprême n'a pas écouté, n'a pas suivi cet argument-là.
En tout cas, un des juges, Sonia Sotomayor, pour la citer, a tout de même écrit ce commentaire. N'importe quel observateur sensé conclurait que le décret est motivé par un sentiment anti-musulman. Mais en tout cas, la décision finale de la Cour suprême américaine est telle que voilà, ce décret est entré en vigueur. Delvi, vous avez une question subsidiaire.
Merci beaucoup. Ce décret prévoit-il une exception pour les réfugiés ayant une situation humanitaire particulière.
Françoise Coste.
Alors, l'administration a effectivement annoncé que le décret officiellement ne s'appliquerait pas aux réfugiés, mais dans les faits, là aussi il faut vraiment distinguer le discours et les faits, dans les faits, l'administration Trump est beaucoup plus stricte que celle d'Obama pour l'entrée des réfugiés, quel que soit leur pays d'origine, et globalement, le nombre des réfugiés demandant asile aux États-Unis a été divisé par deux depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, environ de 100 000 à 50 000. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pas juste l'administration qui, dans les consulats par exemple, ou une fois aux États-Unis, qui est plus stricte dans le tri des réfugiés, c'est que, et ça c'est le but ultime en fait de la politique de Trump avec ce décret ou avec ce qui se passe à la frontière avec les camps pour les familles et les enfants, c'est envoyer un message en réalité. Voilà, c'est ça. Le but final, c'est envoyer un message dans les pays concernés d'Amérique latine ou dans le reste du monde pour dire ne venez plus. C'est pas la peine d'essayer. C'est dissuasif et le pire, c'est que ça marche parce qu'effectivement, le nombre d'immigrés qui essayent de rentrer entre les États-Unis et le nombre de réfugiés demandant l'asile aux États-Unis a, c'est vrai, beaucoup baissé.
Et je rappelle la liste des pays concernés. Iran, Libye, Somalie, Syrie, Yémen, plus Corée du Nord et certains officiels du Venezuela. Merci beaucoup, Françoise Coste, spécialiste de la politique intérieure des États-Unis. Toutes vos questions nous intéressent. Profitez-en si vous souhaitez mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. 33 9 693 693 70. On se fait un plaisir, évidemment, chaque matin de vous répondre en direct. Sen Koun, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous.
Vous êtes à Conakry, en Guinée. Vous avez des questions sur la guerre civile au Soudan du Sud.
Effectivement. Après avoir mis en place un accord pour un cessez-le-feu le 27 juin dernier, le président Riek Machar de l'opposition accuse le gouvernement de Salva Kiir d'avoir violé cet accord de paix. Alors, mes questions sont à ce propos. L'armée sud-soudanaise a demandé, est-elle vraiment à l'origine de l'offensive? Et comment expliquer ces violations sur les accords de paix?
Oui, c'est vrai que la trêve était censée être permanente. Finalement, elle n'a duré que quelques heures. Bonjour, Jérôme Tubiana.
Bonjour.
Chercheur spécialiste du Soudan, consultant pour l'ONG Small Arms Survey, spécialisé dans l'analyse des conflits. C'est un énième accord qui a donc été conclu la semaine dernière entre le président du Soudan du Sud et son grand rival. Et comme à chaque fois, eh bien, l'accord vole en éclats. Les belligérants se renvoient chacun à la responsabilité des attaques. Que savez-vous exactement?
Eh ben, pas grand-chose sur vraiment les incidents en particulier. On n'en est pas sûr et on n'en sera peut-être jamais sûr. Les cessez-le-feu dans la région ont été, au Soudan du Sud, ont été constamment violés depuis le début. Ce qu'on sait, c'est que de part et d'autre, dans les deux camps, il y a des durs, des hardliners qui n'ont pas forcément d'intérêt à ce que cet accord soit respecté. Et d'autre part, ce qu'on sait aussi, c'est que il y a depuis le départ des troupes qui sont incontrôlées par les deux leaders, Salva Kiir et Riek Machar, et qui peuvent être amenées à ne pas respecter un accord qui a été conclu plutôt loin d'eux et pas forcément avec leur accord à eux.
Ouais. En tout cas, le dernier accord conclu, c'était au mois de décembre. Et là aussi, on a bien vu qu'il a éclaté quelques heures plus tard. Sen Koun, vous aviez une autre question?
Oui, effectivement, Juan. La communauté internationale avait annoncé que les deux parties avaient jusqu'à fin juin pour trouver un accord. Du coup, est-ce que la reprise des combats pourrait entraîner des sanctions de la communauté internationale?
Jérôme Tubiana.
Eh bien, on a parlé de sanctions. En tout cas, il y a eu des menaces de sanctions, un petit peu comme à chaque fois. Mais depuis 5 ans que le conflit a commencé au Soudan du Sud, la menace de sanctions n'est plus très crédible. Elle ne fait plus vraiment peur, en tout cas, aux belligérants. Parce que la communauté internationale a échoué à vraiment sanctionner, en particulier lorsqu'il y a eu, il y a 3 ans, l'expulsion de Riek Machar, donc le leader de l'opposition de Djouba, puisque l'arrangement de l'époque avait prévu qu'il revienne à Djouba et qu'il retrouve en fait sa position de numéro 2, de vice-président. Mais à ce moment-là, il y avait eu des incidents dont le gouvernement de Salva Kiir était clairement responsable. Et la communauté internationale avait choisi d'ignorer cette violation de l'accord de paix, de ne pas sanctionner le gouvernement de Salva Kiir et de se passer de Riek Machar, en fait, de refaire le même accord, mais sans son principal signataire pour l'opposition. Donc c'est ce moment clé hein, qui a divisé d'un côté le leadership de l'opposition, mais qui a aussi permis à Machar de regagner sa popularité, qui explique qu'aujourd'hui on en soit réduit à des petits arrangements pour revenir un petit peu au point de départ, mais sans grand espoir.
Oui, en attendant, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Merci Jérôme Toubiana d'avoir répondu à Senkoun en direct sur l'antenne de RFI. Guillaume Thibault, correspondant permanent de RFI à Dakar, il est en direct avec nous. Bonjour Guillaume. Guillaume Thibault ?
Je suis là, Juan, bonjour à tous.
Et nous sommes ravis quand ça fonctionne et qu'on vous entend, évidemment. Guillaume Thibault, on vous a contacté ce matin, on a reçu des questions après ce rebondissement dans l'affaire Khalifa Sall. La question vous est posée par Florent, en Côte d'Ivoire. Bonjour Florent.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons.
Bonjour Juan, bonjour auditeur de RFI. Alors, je sais comme vous l'annonciez, la Cour de la CEDEAO a reconsidéré la condamnation d'Khalifa Sall sur appel de ses avocats. Ron, je voulais savoir, l'appel des avocats de Khalifa Sall a-t-elle été portée sur la procédure de la condamnation ou sur la culpabilité de M. Sall ?
Alors, Guillaume Thibault, on va essayer d'être précis et de comprendre quelles sont les compétences de cette cour de justice de la CEDEAO, cour basée à Abuja, et qui, dans ce dossier Khalifa Sall, a rendu un arrêt.
Un arrêt et non un verdict qui tient pour le moment sur une page. Nous n'avons pas l'argumentaire complet, il faut le dire. Justice de la CEDEAO qui est reconnue par les États membres.
Alors, Guillaume Thibault, passez sur le réseau téléphone puisque nous avons des coupures avec le satellite.
Je reprends. Je vous disais que la Cour de justice de la CEDEAO, qui est reconnue forcément par les États membres, il n'y a dans le fond qu'une seule compétence, elle statue sur la violation ou non des droits de l'homme. Et c'est dans ce cadre que les avocats de Khalifa Sall l'ont saisi en décembre dernier. Ils ont déposé 18 requêtes. La première, c'était d'obtenir une procédure d'urgence, tout simplement car le procès en première instance de Khalifa Sall allait s'ouvrir courant janvier. La Cour l'a à l'époque refusé et elle a donc pris 6 mois pour statuer sur ce dossier qui est ultra sensible ici au Sénégal. La Cour de justice s'est donc intéressée à la procédure au respect des aspects techniques et juridiques.
Et concrètement, sur l'enquête et le procès qui ont amené à une condamnation à 5 ans de prison pour Khalifa Sall, la Cour de la CEDEAO estime donc que 3 droits ont été violés.
Et c'est l'État, les services de police, de justice qui sont entièrement responsables. C'est ce que dit la Cour. Khalifa Sall n'a pas eu notamment, comme le stipule la loi sénégalaise, accès à son avocat dès le début de son interrogatoire. La Cour estime aussi que la procédure a été menée à charge puisque le droit à la présomption d'innocence n'a pas été respecté. Des manques graves qui amènent cette Cour de justice de la CEDEAO à considérer que le droit à un procès équitable a également été violé. Pour rendre son arrêt, la Cour se base sur les documents mis à la disposition par les avocats de Khalifa Sall et de l'État, mais surtout sur les auditions de ces deux parties qui ont été menées en janvier à Abuja.
Alors, Florent nous demandait également en antenne de quels moyens dispose aujourd'hui la Cour de la CEDEAO pour contraindre la justice sénégalaise à respecter son appréciation.
Alors, les avocats de Khalifa Sall le répètent en boucle depuis vendredi dernier. Pour eux, cette décision, elle est exécutoire. Cela veut dire que la défense pourrait aller aujourd'hui devant un tribunal local ici au Sénégal pour obliger l'État à s'exécuter s'il ne le fait pas. Sur un seul point, Juan, l'État devra payer les 35 millions de francs CFA de dommages et intérêts qui ont été alloués par la Cour. Car la Cour de justice de la CEDEAO n'est par contre pas supérieure aux juridictions locales. Ce n'est pas non plus une cour d'appel ou de cassation qui peut être sollicitée après une première condamnation, comme c'est le cas dans le dossier Khalifa Sall. Les avocats du maire de Dakar et cette bonne guerre affirme, la Cour nous a donné raison, la procédure était légale, notre client doit être libéré immédiatement. Mais la Cour ne s'est justement pas prononcée sur la demande de libération immédiate, sur l'arrêt aussi immédiat des poursuites, tout simplement car ce n'est pas de sa compétence. La Cour de la CEDEAO aussi estimé que la détention de Khalifa Sall l'an dernier, souvenez-vous, lorsqu'il a été élu député en août, était arbitraire. Les juristes se battent ici, hein, car certains estiment que la Cour a fait une erreur, car les faits jugés sont antérieurs à cette élection. Alors pour les avocats de l'État, l'arrêt de la Cour de justice n'a donc pas de valeur, il n'est pas contraignant. Une chose est certaine, Juan, c'est une décision de la Cour de la CEDEAO. Elle sera au cœur du procès en appel de Khalifa Sall qui va reprendre normalement lundi prochain le 9 juillet.
Et on en parle dans 10 minutes avec les auditeurs.